Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Romard, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Au troisième jour, on n'a toujours aucune information sérieuse ou pouvant être considérée comme telle. Qui sont les ravisseurs? Que veulent-ils? Où est séquestré le baron Empain? Un dispositif policier tout à fait exceptionnel continue de fonctionner à travers la France.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, l'enlèvement du baron Empain ou la rançon du succès. Le baron Empain a ses habitudes. Tous les matins, à 10h30, il quitte son domicile de l'avenue Foch à Paris pour se rendre dans ses bureaux du 8e arrondissement. Et en ce lundi 23 janvier 1978, comme à l'accoutumée, le PDG du groupe Empain-Schneider s'assied à l'arrière de sa Peugeot 604 grise et déplie le Figaro. Son chauffeur, Jean-Denis, démarre et sort du parking. À une cinquantaine de mètres, dans la contre-allée de l'avenue, une camionnette à l'arrêt gêne le conducteur. Il tente de la doubler. C'est alors qu'un motard arrive sur sa gauche, perd le contrôle de son engin et se couche en travers de la route. Jean-Denis est contraint de s'arrêter. Le motard se relève aussitôt. Des hommes armés et masqués surgissent de l'estafette. Ils se précipitent vers la Peugeot, frappent et jettent le chauffeur sans ménagement dans la camionnette. Jean-Édouard Empain, lui, n'a pas le temps de faire un geste. Les hommes le menottent, le bâillonnent, lui bandent les yeux et s'emparent de sa voiture, qui s'engouffre dans le flux de la circulation parisienne. Et voilà comment, en quelques minutes, l'une des personnalités les plus puissantes de France disparaît. Son histoire va faire la une des médias et tenir le pays tout entier en haleine pendant des semaines.
Hey messieurs, bonsoir. Cet homme qui est derrière moi est à la tête d'une des plus grosses fortunes de France. C'est un des 10 grands leaders de l'économie française, c'est le baron Empain. Et bien ce matin, il a été enlevé en plein Paris. Alors qu'il est, personne n'est capable de dire quel est le mobile du rapt. Aucune demande de rançon n'a été formulée.
Très vite, les Français vont tout savoir sur ce dit que la presse décrit comme un Robert Redford en mieux. Les commentateurs évoquent la paisible vie privée de ce bel homme de 40 ans, loin des mondanités. Il partage son temps entre le château familial, en Belgique, et son appartement parisien de la très huppée avenue Foch, à deux pas de l'Arc de Triomphe. Mais si apparemment rien dans son existence ne laisse présager un tel drame, les faits ne surprennent pas outre mesure. Dans les années 70, les rapts à l'italienne, c'est-à-dire contre rançon, sont hélas monnaie courante. Le PDG de Fodogram et celui de Fiat France en ont déjà fait les frais. Avec son emploi du temps régulier, le baron est une proie facile pour les malfrats. Ce flamboyant capitaine d'industrie est de surcroît un très gros poisson, dont on peut espérer beaucoup d'argent. À l'époque, son empire compte 120 000 salariés et près de 300 sociétés, dont des fleurons dans le nucléaire ou la métallurgie, comme Framatome, l'ancêtre d'Areva, ou Creusot-Loire.
Il est aussi dans les travaux publics, les chantiers navals, la métallurgie, l'armement, les machines outils, l'immobilier, les banques, les aciers.
Il pèse plus de 22 milliards de francs, soit 11 milliards et demi d'euros. Ce riche héritier d'une lignée d'industriels wallons, surnommé Wado par ses intimes, est l'un des hommes les plus influents de France et de Belgique, à tel point qu'il paraît totalement invulnérable. La disparition d'une personnalité de cette envergure, proche du président Valéry Giscard d'Estaing, déclenche un inévitable branle-bas de combat. Sur injonction du chef de l'État, le garde des Sceaux, Alain Perfit, met en place une cellule de crise et encourage la dénonciation des ravisseurs. Le groupe Empain-Schneider constitue en parallèle sa propre équipe pour gérer la situation. On y trouve René Angan, le bras droit du grand patron, et Robert Badinter, alors avocat de l'Empire industriel. Des contrôles routiers sont effectués dans la capitale et sa banlieue. La police interroge Jean-Denis, le chauffeur, qui a été relâché quelques minutes après l'enlèvement.
Le premier qui s'est approché était armé, avait dans chaque main un revolver à barillet, ce que j'ai remarqué. Et derrière lui, il y avait un plus grand. Mais alors, il avait simplement un revolver, lui, un barillet aussi, mais il n'en avait qu'un.
Vous avez entendu parler les ravisseurs en langue allemande?
En langue allemande, oui. Un seul qui parlait en allemand, les autres parlaient en français.
Est-ce que c'était, d'après vous, le chef du commando?
C'était le chef du commando, oui.
Et dans quelle langue leur répondaient les autres?
En français.
Les autorités craignent le pire. 6 mois plus tôt, Hans-Martin Schleyer, le président du patronat allemand, a été séquestré puis exécuté par le groupe d'extrême-gauche Fraction Armée Rouge. Dès le lendemain, le 24 janvier 1978, la radio RTL reçoit un coup de téléphone d'un groupuscule d'extrême-gauche. « Nous, noyau armé pour l'autonomie populaire, revendiquons l'enlèvement du baron Empain. Nous exigeons la libération de nos camarades avant mercredi midi. Sinon, nous tuerons le baron. D'autres patrons suivront. » Mais c'est une fausse revendication. Quelques heures plus tard, les vrais kidnappeurs contactent des proches du milliardaire. Ils leur donnent le numéro d'une consigne à ouvrir Gare de Lyon. À l'intérieur, la police trouve la carte d'identité de Wado, un message écrit de sa main, une lettre des malfaiteurs réclamant 80 millions de francs et un curieux petit paquet. En l'ouvrant, la brigade criminelle découvre médusée la phalange d'un auriculaire gauche conservé dans un flacon de formol. C'est un morceau du doigt du baron Empain. Si l'argent n'arrive pas rapidement, précise Truand, d'autres parties de son corps suivront. L'affaire prend alors une tournure très inquiétante. Les enquêteurs n'ont aucune idée de l'identité des coupables. Ils commencent donc par fouiller la vie privée du baron pour y trouver des pistes. Ce qu'ils vont découvrir va considérablement ternir son image de bon père de famille. Wado fait en effet plutôt partie de la catégorie des jouisseurs. Il joue souvent au poker, gros, très gros. Il a perdu 11 millions de francs quelques semaines avant le drame, à tel point que la police envisage même un instant qu'il a pu commanditer son propre enlèvement pour éponger ses dettes. Il possède également une garçonnière qui lui permet de mener une vie extra-conjugale bien remplie. Comble du déshonneur pour le clan familial, ces détails croustillants ne tardent pas à sortir dans la presse. Par mesure de rétorsion, les proches du baron refusent désormais de répondre aux médias. Ils prennent aussi leur distance avec les forces de l'ordre et mènent des négociations en secret avec les ravisseurs pour obtenir un rabais sur la rançon. René Angan, le bras droit du baron, a déjà réussi à réunir 30 millions de francs en quelques jours, mais il peine à trouver le reste. La police se doute de ces tractations et ne les voit pas d'un très bon œil. Elle parvient peu à peu à regagner la confiance du clan et à le persuader de l'informer des négociations en cours. L'enquête se poursuit. Et, après un long silence, les bandits fixent un rendez-vous pour la remise de la rançon, le 22 février, dans la station de Megève, en Haute-Savoie. L'inspecteur Jean Mazzieri, un as des arts martiaux, se fait passer pour un collaborateur du grand patron. Il doit assurer la livraison de 2 sacs de sport, contenant 17 millions de francs suisses en faux billets. Mais le dispositif policier manque de discrétion. Les kidnappeurs alertés annulent l'opération. Ils se concertent, envisagent d'exécuter le baron et finissent par voter. Finalement, le baron échappe à la mort. De peu. Un mois plus tard, nouvelle prise de contact. Cette fois, les conditions sont très claires. Si la police est avertie, le captif mourra. La famille prévient pourtant les forces de l'ordre. Et c'est à nouveau l'inspecteur Jean Mazzieri qui est chargé d'apporter la rançon, le 23 mars, au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Les malfaiteurs changent leur plan au dernier moment et donnent à l'inspecteur un autre point de rencontre. Il doit se rendre dans un café de la Porte d'Auteuil, où il découvre de nouvelles instructions. Commence alors un jeu de pistes qui va durer 2 jours, pendant lesquels Mazzieri courra aux 4 coins de la banlieue parisienne. Ses contacts lui demandent de fouiller une poubelle pour y récupérer un itinéraire, de prendre une voie de service, puis d'emprunter un véhicule abandonné sur un parking. Mazzieri arrive enfin à une borne d'appel d'urgence sur l'autoroute A6, qui relie Paris à Lyon. Une dépanneuse se gare derrière lui. L'inspecteur descend de son véhicule pour expliquer qu'il n'a pas besoin d'aide. Soudain, 2 hommes surgissent des fourrés et s'emparent de sa voiture. Une brève course-poursuite s'engage alors sur l'autoroute, avec les policiers qui suivaient discrètement Mathieu. Une fusillade éclate. Deux agents sont blessés. Un gangster est abattu et un autre arrêté.
La suite, le commissaire Ottavioli la raconte.
À ce moment-là, notre dispositif d'intervention a pris en chasse cette voiture qui d'ailleurs s'est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin. Les ravisseurs ayant l'intention de sortir la rançon par une porte du mur de protection contre les bruits d'Arcueil qui donnait sur Arcueil. Et lorsque cette voiture a été entourée par notre dispositif, en réalité, des individus qui se trouvaient derrière la porte ont ouvert le feu sur le dispositif. Dispositif qui a répliqué. Nous avons eu deux inspecteurs blessés, fort heureusement légèrement. Et l'un des individus qui était venu prendre la rançon a été tué, tandis que l'autre a été légèrement blessé et est interrogé.
C'est ce dernier, Alain Cailleul, déjà repéré pour des petits larcins, qui va permettre de dénouer la situation. Après quelques heures d'interrogatoire, la police réussit à le convaincre d'appeler ses comparses pour libérer Jean-Édouard Rompin. Le 26 mars, un homme cagoulé, vêtu d'un jogging bleu défraîchi, est abandonné sur un terrain vague d'Ivry-sur-Seine. Il se relève, se débarrasse de ce qui lui couvre la tête et cligne des yeux, ébloui par la lumière. Il sourit en reconnaissant la banlieue parisienne. Il s'agit évidemment du baron, ou de ce qu'il en reste. Épuisé par une captivité de 63 jours, amaigri, il a perdu 20 kilos. Le flamboyant quadragénaire n'est plus que l'ombre de lui-même. Il marche avec difficulté. Ses geôliers lui ont donné un billet de 10 francs, qui lui permet de prendre le métro. Wado descend à la station Opéra et appelle sa femme, Sylvana. La joie l'envahit, il est vivant, il va enfin revoir ses proches. Une voiture arrive, son épouse est à l'arrière. Il s'assied près d'elle et éclate en sanglots, comme un petit garçon. Mais ce qu'il pense être l'heureuse fin de son cauchemar n'est que le début d'autres épreuves. Comme il le racontera plus tard, Sylvana, son épouse, ne sent pas très heureuse de le retrouver. Son accueil est glacial. Excédée par tout ce qu'elle a lu dans la presse, par les révélations sur ses maîtresses, elle lui lance simplement « Je savais que tu reviendrais ce soir. » Puis viennent les reproches. « Qu'est-ce que tu nous en as fait voir vraiment? Qu'est-ce qu'on en a bavé ?»
Depuis bientôt 24 heures, une centaine de journalistes se pressent devant les grilles du 33 avenue Foch, le domicile parisien du baron Rompin, dans l'attente d'une déclaration. Des policiers interdisent encore l'entrée du hall de l'immeuble à toute personne étrangère. Quant au baron Rompin, il semble vouloir se reposer de sa longue séquestration et profiter de cette première journée de liberté en famille.
Avec le reste de la famille, les retrouvailles se déroulent tout aussi fraîchement. « Personne, vous entendez ? Personne ne m'a demandé comment j'allais, » expliquera le baron. « J'étais considéré comme un coupable, comme un gêneur. » Seul, son labrador lui fait la fête et ne le quitte pas pendant 3 jours.
« Mon entourage, pour l'appeler ainsi, a peut-être fait... » une erreur psychologique, n'est-ce pas? Et au lieu de m'entourer d'amitié, d'amour et de parler de choses banales, on n'a pas attendu du tout que je récupère et on m'a immédiatement mis sous le nez un certain nombre de faits de ma vie privée, n'est-ce pas? Et demandé d'y répondre.
Aucun de ses proches ne semble vraiment prendre la mesure de l'enfer qu'il a vécu. Et pourtant, après son enlèvement, le grand patron en a bavé. Il a d'abord été retenu prisonnier dans une maison en ruine du Val d'Oise. Séquestré au fond d'une cave dans une simple tente de camping, il est enchaîné par le cou, menotté aux poignets et aux chevilles. On l'oblige à rester allongé dans l'obscurité sur un matelas pneumatique. Il ne voit jamais la lumière du jour. Il souffre du froid glacial et de la faim. On le nourrit d'un peu de pain et d'eau, à intervalles irréguliers. Tout est fait pour qu'il perde ses repères, pour le briser. Wado est régulièrement insulté et humilié. On ne vide le baquet où il fait ses besoins que lorsqu'il est plein. Surtout, il sait que sa vie ne tient qu'à un fil. Au journaliste, il dira qu'il ne craignait pas la mort. « Je n'avais peur que d'une chose, c'était de souffrir. J'avais obtenu d'eux que s'ils devaient me tuer, ce serait de façon propre, pas en me découpant en morceaux. Lorsque ces ravisseurs tirent à la courte paille pour savoir qui lui coupera une phalange, bizarrement, ça le rassure. Il comprend que l'on ne veut pas le massacrer tout de suite. Après le fiasco de la première tentative de remise de rançon à Megève, on le transporte dans une caisse en bois vers un nouveau lieu, la cave d'un pavillon de Savigny-sur-Orge, à une trentaine de kilomètres de Paris. Et juste avant sa libération, on lui impose une dernière épreuve. Il doit signer 3 reconnaissances de dette à ses geôliers. S'il ne les honore pas, ils élimineront 3 passants au hasard dans la rue et déposeront les reconnaissances de dette sur leurs cadavres. Ces menaces, heureusement, ne seront jamais mises à exécution. Difficile, après un tel calvaire, de reprendre sa vie là où on l'a laissée. Le retour à la liberté est très compliqué pour le baron Empain. Lorsqu'il reprend les rênes de son empire, il est reçu aussi froidement par ses collaborateurs qu'il l'a été par sa famille. Il désapprouve ses frasques passées. Ils craignent les conséquences sur l'avenir du groupe et se sont déjà organisés pour se passer de lui. Ils ont même revendu sa Mercedes de fonction. Ceux qui étaient, quelques mois auparavant, au garde-à-vous, ne trouvaient plus le temps de me voir, témoignera-t-il plus tard. Alors que j'étais quand même encore leur patron. On ne m'invitait plus, j'étais devenu persona non grata partout, dans ma société, chez moi, dans ma famille, dans mes relations. L'ancien otage a besoin de parler de ce qu'il a enduré, mais ses proches font pression sur lui pour qu'il garde le silence. Très affecté, il décide de partir pendant 6 mois, sac au dos, sur les routes américaines, comme un voyage initiatique pour réapprendre à vivre. À son retour des États-Unis, en septembre 1978, Wado se confie enfin lors d'une conférence de presse.
Vous savez, la plupart de mes ravisseurs aujourd'hui sont en prison, c'est-à-dire qu'ils sont privés de liberté. Et vous savez, la privation de liberté, je pense que je sais ce que c'est, je les plains beaucoup, je leur pardonne. Pour moi, ce qui m'est arrivé, c'est très important, n'est-ce pas? Ça a complètement bouleversé ma vie, quand il vous est arrivé une chose comme ça. Les choses importantes sont des choses beaucoup plus terre à terre, la liberté de se promener. C'est alors qu'on se rend compte que, finalement, on aime bien la vie.
Il pardonne à ses rançonneurs, mais il en veut à la police, qui a divulgué des informations sur sa vie privée. Définitivement transformé par les épreuves qu'il vient de traverser, le baron Empain commence une nouvelle existence. Il divorce et rembourse les prêts qu'il avait contractés. En 1981, il vend ses parts du groupe Schneider à la BNP. Lui qui fut l'un des industriels les plus craints en France, monte désormais des petites sociétés de moins de 15 salariés. Et pendant plusieurs années, il évite la contre-allée de l'avenue Foch, le lieu de son enlèvement. La police, de son côté, poursuit ses investigations, car les ravisseurs courent toujours dans la nature. Elle a enregistré l'appel d'Alain Cayol à ses complices et a identifié le numéro. Après des mois d'enquête, la traque aboutit. Le 22 novembre 1978, le commissaire Ottavioli, patron de la criminelle, annonce l'arrestation du cerveau du rapt, François Cayol, le frère d'Alain, et de 7 autres comparses, pour la plupart des truands sans envergure. Les coupables vont enfin répondre de leurs actes devant la justice.
Nous sommes, Daniel, dans la grande salle de la cour d'assises de Paris. Les accusés, je vous le dis tout de suite, n'ont pas voulu se laisser filmer, ainsi que leur permet la loi. Le baron Empain vient d'arriver, vous le voyez, il est très crispé, très fatigué. La meute des photographes, comme on dit, et puis nous aussi, il faut bien le préciser également, nous sommes tous là. Il y a évidemment une affluence extraordinaire de journalistes pour cette affaire, qui est l'une des plus importantes de cette année 82.
Le procès se tient en décembre 1982. Jean-Édouard Empain est attendu pour témoigner. Le baron découvre à l'audience le visage de ses ravisseurs et espère que la sentence ne sera pas trop sévère. Les accusés, eux, lui présentent des excuses. Alain Cayol expliquera par la suite, dans un entretien au magazine VSD. On voulait se faire un salopard, et on estimait que ce n'était pas une mauvaise chose de le punir. En réalité, Empain était un brave type, courageux et digne. Les malfrats racontent avoir d'abord songé à enlever d'autres personnalités, comme Marcel Dassault, Liliane Bettencourt ou le baron de Rothschild. Mais l'emploi du temps réglé comme du papier à musique de Wado et sa bonne condition physique, déterminante pour supporter la détention, ont fait de lui la cible idéale. Les malfaiteurs chargent leur complice qui est mort pendant la fusillade de l'autoroute. Au final, ils écoperont de peine de 2 à 20 ans de réclusion criminelle. En 1985, le grand patron raconte son enlèvement dans un livre, La vie en jeu. Il se remarie en septembre 1990, s'installe à Monaco. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et le baron en pain aurait enfin pu couler des jours heureux, loin des médias et à l'abri de la curiosité du public. Mais cette affaire tragique et incroyable n'a jamais cessé de passionner. En 2012, l'un des ravisseurs, Alain Cayol, publie ses souvenirs. À cette occasion, France 2 organise, 34 ans après, une rencontre entre le baron et le malfrat.
Moi, j'avais besoin en tout cas de faire ce geste en lui disant « Ben oui, on t'a fait la guerre, on t'a attaqué, ça s'est passé il y a 34 ans, maintenant je voudrais juste te dire qu'on est en paix, quoi. » Et moi, tant que je lui avais pas dit ça, eh ben, je pouvais pas être en paix.
Les deux hommes se disquittent et, même s'ils ne seront jamais amis, ils n'excluent pas de se revoir un jour. Sans doute pour tenter d'exorciser ce drame digne d'un mauvais polar. La mort en décidera autrement et emportera le baron en pain en juin 2018. Ce texte, écrit par Léo Pageant et adapté par Anne-Vincent Signy et Christine Ivarenne, a été enregistré par Anne-Vincent Signy. Mixage de Lucas Vibault.